Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Arnold Derek.
Bonjour et bienvenue dans le Mag Loisir Week-end France Bleu avec toute l'équipe et comme disent les fromagers, faites du bruit. J'espère que votre dimanche se passe bien.
Ça y est, on l'a.
En tout cas, nous sommes ravis de passer ces 30 prochaines minutes avec vous, avec une montagne de belles choses à vous faire découvrir, notamment dans l'actu ciné avec Ségolène Aluni.
Oui, c'est ça, une montagne, Clint Eastwood, 1m93.
Ouais, voilà, la télévision avec Patrice Gascoigne.
Bonjour à tous.
Pour la musique, vous pouvez compter évidemment sur Éric Bastien.
Bonjour et bon dimanche.
La lecture, c'est avec Frédéric Le Ternier.
Bonjour tout le monde.
Et pour le sport, Vanessa Lambert.
Eh oui, bonjour.
On vous retrouve tout de suite après le sommaire, Vanessa Lambert, dans une séquence qui s'adresse particulièrement aux insomniaques. Oubliez les somnifères, hein, il y a la Coupe de France de football.
Mais c'est top la Coupe de France, et notamment pour les clubs amateurs qui jouent le match de leur vie. C'est le match de la vie.
Arnaud. C'est fini la Coupe de France.
Faut se réveiller.
Ouais, on attend quand même que Sardou chante « Ne m'appelez plus jamais Coupe de France ». Eh bien justement, une coupe, il faudrait lui en remettre une pour son implication dans les ventes records de tisane, de verres correcteurs, de plaides et de ventes de livres. Frédéric Le Ternier va vous faire virer écolo dans son conseil lecture.
Et pourtant ça ne me ressemble pas, mais j'ai adoré l'éloge du ver de terre de Christophe Gatineau chez Flammarion. Il nous inquiète un peu, mais il nous parle très bien de biodiversité.
Il n'y a pas de fumée sans feu, pas de jambon sans couen ou d'actu musique sans Éric Bastien.
Très beaux exemples.
Voilà, vos oreilles vont se régaler aujourd'hui avec le nouveau Paul McCartney, le nouveau Vita ou encore Patrick Bruel.
Oui, Patrick Bruel qu'on va écouter justement évoquer le nouveau single des Enfoirés. C'est dans 4 jours et c'est avec France Bleu.
Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Désormais une phrase reléguée aux oubliettes, à l'instar de t'as voté Macron toi aussi. Et c'est bien normal, Patrice Gascoigne vous recommande le meilleur de la télé, dont cette nouvelle série intitulée Philharmonia.
On va rester dans la musique, mais la grande, la belle musique, Philharmonia. Façon thriller dans les coulisses d'un orchestre symphonique, c'est sur France 2, c'est génial.
Et puis nous parlerons cinéma à la fin de l'émission en compagnie de Ségolène Aluni. Vous vous intéressez aujourd'hui à Clint Eastwood, toujours en activité.
Toujours.
Il a un nouveau film qui sort mercredi.
Oui, ça s'appelle La Mule, il est devant et derrière la caméra, rétrospective donc de Clint Eastwood.
Ah ouais, 88 ans, Clint Eastwood, hein, meilleur taux de cholestérol que moi.
C'est remarquable. C'est pas vrai.
Ah si. On est très content de vous retrouver pour ce mag loisir du dimanche sur France Bleu. Installez-vous bien confortablement, c'est parti.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Mardi commence les 16e de finale de la Coupe de France de football. Ce qu'on aime dans la Coupe de France, ce sont ces petits, Vanessa Lambert.
Mais oui, les amateurs, les petits poussés, et on est servi encore cette année. Si on part du principe que les pros en foot, c'est Ligue 1 et Ligue 2, et bien tout le reste, ce sont des amateurs. Alors forcément, en National, on est un peu entre les deux, mais National 2, National 3, Régional 1, là on est chez les amateurs. Et les petits poussés cette année, ce sont deux clubs de Régional 1, l'équivalent de la 6e division, deux clubs de région parisienne, Viry-Châtillon qui a battu une Ligue 1, le SCO d'Angers, au tour précédent, et Noisy-le-Grand qui a éliminé une Ligue 2, le Gazélec d'Ajaccio. Pour ces deux clubs, l'aventure continue. Noisy ira à Bastia, le SC Bastia en N3. C'est un petit peu chaud parce que comme ils ont déjà éliminé des Corses, il y a eu un peu quelques insultes sur les réseaux sociaux. Le coach a essayé de calmer tout le monde. On espère que le déplacement sera calme. Quant à Viry-Châtillon, il s'offre à nouveau une Ligue 1, et cette fois ce sera le Stade Malherbe de Caen, de Patrice Gascoigne, une grande joie pour Walid Aïchour, l'entraîneur de Viry.
Ouais, on est très très content de recevoir Caen. Deuxième Ligue 1 à Viry, c'est exceptionnel. Déjà tomber contre une Ligue 1, c'était assez exceptionnel. Une deuxième Ligue 1, c'est fabuleux. Ce qui est bien, c'est qu'en attendant ce match, ça va s'entraîner dans la bonne humeur. Voilà, il y aura de l'envie et il y aura de la solidarité comme il y en a déjà eu. Donc voilà, on est très heureux pour l'équipe, pour le club, pour la ville. Le problème, c'est qu'il va falloir dégonfler quelques têtes aussi, donc ça va être compliqué, puisqu'on a un match de championnat quand même à jouer avant. Ça va être une grosse tâche, ouais.
Voilà, les gros matchs, les autres matchs, il y a du classique. On notera toutefois la présence d'Andrézieux au nord de Saint-Etienne, équipe de National 2 qui a éliminé l'OM au tour précédent. La participation des Herbiers, héros de la finale l'an passé. Le club qui évolue aujourd'hui en National 2 sera Villefranche, équipe de National. On ne sait pas encore si Philippe Catherine fera encore une chanson cette année, mais on reste au taquet.
Ouais, vous nous parliez des Herbiers, Vanessa, c'est vrai que c'était la belle histoire l'an passé, mais il y en a eu d'autres, hein, des clubs amateurs qui se sont illustrés en Coupe de France.
C'est en 1927 qu'on note le premier exploit d'un club amateur dans la prestigieuse Coupe de France. Il s'agit de Quevilly qui ira jusqu'en finale. Finale perdue contre Marseille. Quevilly qu'on retrouvera en 2010 et en 2012.
Avec les mêmes joueurs.
Non. En 73, les Bretons de Guingamp, alors en 7e division, sortent 4 clubs de Ligue 2 et iront jusqu'en 8e de finale. En 96, 2016, les Crocodiles de Nîmes en national iront jusqu'en finale contre Auxerre, finale perdue là aussi. En 2000, on a tous en tête la finale entre Calais, 4e division, et le FC Nantes, mais surtout l'image forte de Mickaël Landreau, le capitaine nantais, qui invite alors son homologue amateur de Calais à soulever la coupe avec lui. C'était la première fois qu'on voyait ça.
Il a rien dans les bras, Landreau. Il faut qu'il appelle quelqu'un, c'est incroyable.
Et puis en 2008, on a craqué pour Carquefou. Vous vous rappelez de la chanson ?
Oui.
À Carquefou ! À Carquefou !
Oh, on fait les fous !
Voilà, équipe de CFA2 qui avait alors...
Participez si vous savez pas, c'est pas grave.
Carquefou qui avait ridiculisé l'OM, encore eux décidément, en 8e de finale. Des Carquefoliens qui s'étaient inclinés d'un but seulement en 8e de finale contre le PSG. D'ailleurs, il y a une petite blague. Les Parisiens ont souvent chambré les Marseillais en leur disant sur ce sujet-là « Eh, nous on a battu Carquefou !» Voilà, c'est ça la Coupe de France. Tout peut arriver sur un match. Et si une défaite pour des clubs pros comme le PSG ou l'OM, ça fait tâche, mais c'est pas bien grave. Pour des amateurs, ce match reste le match de toute une vie dont on reparle encore des années plus tard à ses enfants, à ses petits-enfants. Et ça fait la légende des clubs, de ces petits clubs qui n'ont de petits que le nom. Parce que c'est vrai que dans ces clubs en région, il y a toute l'âme du football, le vrai, avec sa buvette, ses supporters autour de la main courante et ses bénévoles qui travaillent tout au long de l'année. C'est une énorme récompense généralement.
Et c'est vrai, vous faites bien de les mentionner, tous les bénévoles qui sont là, qui donnent de leur énergie, de leur temps pour être là et encourager leur club favori. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Vanessa Lambert. Et évidemment, il faut regarder la Coupe de France.
Oui, pour une fois, on pourra avoir le PSG en clair, on a de la chance.
Oui, c'est vrai. Quoique, je ne sais pas si c'est vraiment bien conseillé en ce moment. Allez, on passe à la lecture.
Le Mag Loisir Weekend sur France Bleu. Arnold Derek.
Chaque week-end, la lecture, c'est avec Frédéric Le Ternier. Vous nous donnez de bons conseils et vous avez choisi de nous parler du ver de terre. Là, j'avoue que vous m'étonnez.
Mais moi aussi, je me suis étonnée, en fait, pour tout vous dire, Arnold. En règle générale, j'aime pas du tout ce genre d'ouvrage consacré à la prise de conscience, à l'écologie, à l'environnement. Souvent, je trouve que c'est un peu rébarbatif, voire donneur de leçons. Je vais jusque-là. Donc, cet ouvrage sur le ver de terre, je le sentais moyen. Et en fait, il est assez génial parce que Christian Gatineau, c'est l'auteur, est un agronome spécialisé en agriculture innovante, en agroécologie et en permaculture, et qu'il a réussi à drôlement bien vulgariser ce qu'il souhaitait nous expliquer. Alors, du coup, je me suis sentie, en fait, très concernée.
Et alors, le postulat, c'est quoi ? C'est l'avenir de l'humanité dépend de celui du ver de terre ?
Et bien, précisément, parce que pour commencer, le ver, c'est l'un des premiers marqueurs de la biodiversité et la bonne santé des sols. Et aujourd'hui, il y a moins de ver de terre qu'avant. Parce que vous l'avez compris, hein, c'est plutôt pas top comme nouvelle. Hein, son livre, il n'est pas franchement réjouissant. Pour faire plus simple, je vous dirais que le ver de terre, en fait, nourrit les sols qui nourrissent les plantes qui nous nourrissent ensuite. Vous voyez le problème ? Voilà. Donc, il est devenu un symbole, ce ver de terre, un symbole de la vie du sous-sol. Et aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme.
Mais alors, de quoi est-ce qu'il meurt, le ver de terre ? Et pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup moins ?
Eh bien, de faim, tout simplement. Ah. Alors, je laisse Christophe Gatineau vous dépeindre le tableau.
On a cessé de nourrir cette vie du sol comme on a cessé de nourrir la biodiversité. Et cette biodiversité, cette diversité biologique, en fait, meurt de faim, tout simplement. Et à partir du moment où elle meurt de faim, elle disparaît, elle s'amaigrit, en fait. Et le symbole, en fait, de ce ver de terre, c'est quand il disparaît des sols, en fait, bah, c'est le signal, et les sols disparaissent eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Un quart des sols en Europe sont concernés, sont victimes d'érosion. C'est-à-dire que la terre, le sol, va rejoindre les océans.
Alors oui, je sais, c'est vraiment pas réjouissant, mais c'est bien de le savoir. Et là où Gatineau est très fort, c'est que dans le livre, il fait parler son ver de terre qui dit un paquet d'horreurs. Alors je vous assure qu'il a un langage fleuri, celui-ci. Un dialogue s'établit donc dans l'ouvrage entre ver de terre et agriculteur. L'auteur nous dit pourquoi il a composé le livre sous cette forme exactement.
C'est une manière, en fait, de rendre, j'irais, de faire passer la sauce, de mettre en scène, tout simplement, parce que moi, mon boulot, c'est de mettre en scène l'information scientifique, pour qu'elle soit digeste pour tout le monde et qu'on puisse prendre du plaisir à le lire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un pari au départ d'instaurer un dialogue entre le ver de terre et moi, en fait, l'auteur, qui suis en même temps cultivateur et qui vécut toute ma vie, en fait, à côté des vers de terre.
Alors, du coup, Frédéric Le Ternier, on révise nos fondamentaux sur cette bébête.
Oui, on apprend. Même, hein, pour ce qui me concerne. Alors croyez-moi, effectivement, on la connaît très mal, cette bestiole. Déjà, il existe plein de sortes de vers de terre. Ça vit dans les quoi ? 8 années, c'est bien plus long que les abeilles. C'est hyper intelligent, en fait, un vers de terre.
Ah bon ?
Oui, et puis c'est un sens du confort. Par exemple, il se crée de véritables petites chambres bien cosy comme
il faut. Et comment il fait pour la déco ? Il appelle...
Eh ben, écoutez bien, parce qu'avant, il y a la partie travaux.
On va creuser une galerie qu'on appelle un terrier aujourd'hui, et au fond de ce terrier va creuser une sorte de chambre, on appelle ça une chambre, voilà, et sur le sol de cette chambre, il va va aller récolter la surface, des petits cailloux, des graines, et puis il va faire un sol sur lequel il se repose. Voilà, tout simplement.
Bah
voilà,
moi, je t'y pépère.
Tout simplement, un petit caillou, comme ça, pour se faire une chambre sympathique. Bon, mais je peux pas tout vous dire, parce que, regardez, Charles Darwin, il a lui-même étudié le ver de terre pendant quoi, 40 ans, il en a pas fait le tour, si je puis me permettre, donc on va en rester là, mais ça m'a vraiment beaucoup plu, et c'est pas mon genre de livre d'habitude, donc félicitations.
Bah, merci à vous, en tout cas, de vous être fait violence.
Oui.
Effectivement. Éloge du ver de terre de Christophe Gatineau, chez Flammarion, en tout cas, ça a l'air très, très intéressant, voire passionnant.
Bah oui, mais en plus, il y a une vraie prise de conscience des gens en termes d'écologie.
Non, mais la chronique est finie, je suis désolé, excusez-moi, il faut qu'on enchaîne.
Okay.
Allez, dans un instant, nous parlerons musique avec Éric Bastien. Vous restez avec nous pour en savoir plus sur Philharmonia, nouvelle série télé qui arrive cette semaine sur France 2. Patrice Gascoigne vous en donnera le détail. Et puis, côté cinéma, nous aurons affaire, Ségolène Halluny, à une véritable légende d'Hollywood, Clint Eastwood, ça rime en Wood. Et à tout de suite sur France Wood. Très bon après-midi, merci de votre compagnie. C'est le Mag Loisir Week-end sur France Bleu. Tout de suite, on parle musique.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
La musique, c'est avec vous, Éric Bastien. On est ravis de vous retrouver chaque week-end en forme pour parler notamment aujourd'hui de Paul McCartney. Il a complètement craqué.
Il a craqué, Paul McCartney, total. Il est loin le temps de la tilbée et d'Obladi Oblada. Paul McCartney a un album qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Egypt Station. Il a cartonné à Paris en venant en France le 28 novembre. Il nous revient avec un nouveau single qui s'appelle Get Enough. Et c'est la première fois de sa vie que Paul McCartney, il se met aux bonnes tendances modernes. Il s'est mis à l'autotune.
Ah oui, il a craqué.
Est-ce que vous imaginez Paul McCartney en autotune? Ça donne ça, voilà. Alors comment expliquer c'est que l'autotune véritablement?
C'est un logiciel qui trafique la voix, qui vous fait chanter juste quand vous chantez pas faux.
C'est toujours mieux que Jules quand même.
C'est pas gentil pour Jules. Est-ce qu'il avait besoin de faire ça?
Non,
c'est pas.
Non.
Il a craqué. C'est comme ça, mais on l'aime quand même. Paul McCartney qui devrait entamer une nouvelle tournée dans le monde entier avec un nouveau passage prévu en 2020 en France.
Voilà, s'il pouvait oublier l'autotune à la maison, ça serait. On l'en remercie. On trace. C'est le nouveau single des Enfoirés. C'est un événement France Bleu et le show commence dans 4 jours à Bordeaux.
C'est vrai qu'on en parle beaucoup sur France Bleu du 24 au 28 janvier, ça se passe à l'Arena de Bordeaux. Vous allez vous y rendre d'ailleurs, Arnold Derek.
Absolument, je
rencontrerai tous les artistes pour de belles interviews que l'on découvrira début mars sur France Bleu à l'occasion du passage télévision de l'enregistrement de cette émission. Le nouveau single, c'est Vianney qui l'a composé. Ça s'appelle, vous l'avez dit, On Trace.
On trace.
Et dans ce single, on retrouve Zazie, Kenji, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, également Patrick Bruel, France Bleu Investigation. À des contacts. On a passé un petit coup de téléphone à Patrick Bruel qui revient sur la genèse de On Trace.
J'ai eu la chance de travailler un peu avec Vianney sur mon nouvel album et à un moment donné, la conversation sur les Restos du Cœur est arrivée et j'ai lancé la balle en voyant si ça pouvait peut-être un jour l'intéresser de participer d'une manière ou d'une autre, soit physiquement, soit par l'intermédiaire de l'écriture de la chanson. Et bien, elle a proposé cette chanson qui est super, qui est très fédératrice, qui fait ce qu'elle doit faire.
Patrick Bruel sur France Bleu, Les Enfoirés du 24 au 28 janvier à l'Arena de Bordeaux. On y retrouvera Claudio Capeo et Malik Bentala qui sont les deux nouveaux qui intègrent Les Enfoirés pour cette édition 2019. Et puis Muriel Robin et Hélène Ségara ont décliné cette année. Le concert est à vivre sur France Bleu en live, ce sera début mars.
Allez, Vianney, c'est vrai qu'il est un peu partout. J'ai l'intention de lui demander de me faire ma petite mon répondeur boîte vocale sur mon portable.
C'est pas mal.
Voilà, le succès de Bohemian Rhapsody à présent, il inspire un grand show symphonique à découvrir.
Oui, j'ai demandé à Ségolène Halluny qui m'a dit que cette semaine, Bohemian Rhapsody au cinéma avait passé la barre des 4 millions de spectateurs.
Oui, tout à fait. Oui.
Merci beaucoup. Je n'avais pas demandé, mais bon, elle joue bien la comédie, elle l'a confirmé. Très bien. Bohemian Rhapsody inspire, vous l'avez dit, un show qui s'appelle Queen Symphonique. Ce show va faire une nouvelle fois escale en France en octobre et en novembre prochain. On vous a fait un petit medley. Un show gigantesque, octobre et novembre, dans les Zéniths de France. Le Grand Rex, le 4 novembre prochain, c'est dans quelques mois, mais réservez déjà vos places parce qu'elles vont partir rapidement ou pas. Queen symphonique de retour en France face au triomphe de Bohemian Rhapsody en salle.
Allez, on va terminer avec un nouveau single pour Vita, en plus de ses activités de jury dans Destination Eurovision.
Elle a choisi France Bleu Soir il y a quelques jours à peine pour faire la promotion. Et depuis, quel carton, quel succès, déjà 10 millions de singles vendus. On y croit? Non, en tous les cas, on lui souhaite Vita à la dérive dans ce nouveau single. Bah, attendez, on ne sait pas, elle était là il y a à peine quelques jours. Ça va arriver, ça va monter. Elle nous parle d'amour et de vertige de l'amour dans ce nouveau single. On revient un peu sur la genèse, sur les débuts de A Fleur de Toi, hein, qui est le single qu'avait révélé justement Vita. Vita, nouveau single, autre duo aussi avec Slimane en ce moment sur France Bleu. Et puis Destination Eurovision, c'est en ce moment sur France 2, cette fois aux côtés de Christophe Willem et André Manoukian pour désigner le représentant de notre pays au prochain concours de l'Eurovision.
Eh bien, merci beaucoup Éric Bastien pour l'actu musique. Surtout, je vous le rappelle parce que c'est important, n'oubliez pas de ne pas réserver vos places pour Queen Symphony. Merci beaucoup.
Le Mag Loisir Weekend sur France Bleu, Arnold Derek.
Et nous embarquons pour le petit écran en compagnie de Patrice Gascoin. Patrice, vous vouliez nous parler d'une nouvelle série télé qui arrive cette semaine sur France 2.
On est plutôt gâtés en matière de bonnes séries en ce début d'année, comme quoi on peut se passer de Netflix et s'éclater devant son écran, quel qu'il soit. Alors je vous avais parlé de Il Miracolo, le jeudi soir sur Arte. Cette fois, je vous présente Philharmonia, une petite pépite qui débarque mercredi soir sur France 2. Alors qu'on l'aime ou pas la musique classique, on pourra que se craquer devant cette série captivante, ambitieuse. C'est l'histoire d'une jeune chef d'orchestre, méthode un peu atypique. Elle s'appelle Hélène Barizé. Suite au décès brutal du chef de l'orchestre national, elle est nommée pour prendre la tête de cet orchestre. Mais entre les jalousies, les manigances, on ne va pas du tout lui réserver un bon accueil. La suite, c'est Marie-Sophie Verdan. C'est une vraie révélation qui interprète la chef. Hélène Barizé, c'est elle qui nous raconte la suite.
Non, elle n'était pas attendue. Après la mort du chef qui était en place, on voulait mettre un homme, son successeur était désigné. Et puis, patatras, le ministère décide de mettre une femme et de changer un peu les codes. Donc on l'a fait venir de New York. Et alors donc déjà, elle n'est pas vraiment accueillie. Et en plus, elle a une méthode de direction un peu particulière. Parce que dès le premier jour, elle renvoie le premier violon qui est âgé, qui est son ancien maître. Mais qui n'a plus d'oreille, qui a perdu son oreille, pour le remplacer par une jeune violoniste de 20 ans qui normalement ne pourrait pas avoir cette place si tôt.
Marie-Sophie Ferdinand, hein, qui joue une chef captivante et qui trimballe avec elle quelques secrets, on va pas en dire plus, dans Philharmonia à partir de mercredi soir sur France 2. Cette chef d'orchestre, donc, elle a nommé une jeune violoniste, directement premier violon, c'est le personnage de Selena Rivière, qui est joué par Lina El Arabi, qui se souvient encore de ses jours de tournage dans le vrai décor de la Philharmonie de Paris.
Alors, Selena Rivière, c'est une violoniste. Elle est très jeune, elle a 20 ans. Elle est très, très douée en violon. Et en fait, c'est sa vie, le violon. Et elle a toujours admiré une grande violoniste qui est aussi une grande chef d'orchestre, Hélène. Et le jour où elle apprend qu'elle va être dirigée par Hélène, c'est comme un footballeur qui serait coaché par Zidane, quoi.
Mademoiselle Rivière, venez vous installer au premier pupitre, s'il vous plaît. C'est vous qui serez premier violon lors du prochain concert.
Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance de ce thriller musical sur fond de passion, d'ambition, si on y croit, c'est aussi parce que le casting qui a été choisi avec pas mal d'acteurs plutôt méconnus, hein, du grand public, ce casting est crédible lorsqu'il interprète un musicien. Marie-Sophie Ferdan, qui joue la chef d'orchestre Hélène Barizé, est elle-même musicienne.
J'ai eu une formation musicale, voilà, le parcours un peu classique en violon. Donc j'ai pratiqué l'orchestre, la musique de chambre. Et puis c'est une chose que j'ai essayé de maintenir le plus possible dans ma vie de comédienne en pratiquant un peu à droite à gauche avec des acteurs de la musique de chambre. Ça me plaît beaucoup.
Une série pour démocratiser la musique classique, mais pas que, surtout pour suivre une vraie intrigue avec une galerie de personnages qui sont assez rares à la télévision, un vrai thriller bien ficelé. C'est un pari, cette fiction, un peu comme la nomination de cette chef. Écoutez ce qu'elle dit à cet orchestre qui la défie dès leur première rencontre sur le plateau.
Je suis un pari, une anomalie. Pour certains d'entre vous, peut-être même une angoisse, voire une menace.
Ne manquez pas Philharmonia sur France 2 ce mercredi soir à 20h55.
Eh bien, sur votre conseil, Patrice Gascoin, Philharmonia, donc une série avec des acteurs qui sont également musiciens dans la vie. Et si on va par là, il y avait Christian Morin qui était libre.
Ah oui, c'est vrai.
À la clarinette,
la flûte.
Bien sûr,
la flûte. Sortez de ce studio. Excusez-moi.
Un peu de respect. Pardon,
alors,
Christian.
Non mais tiens, on passe au cinéma tout de suite.
France Bleu, le Mag Loisirs Week-end.
Le cinéma avec Ségolène Aluny. Vous avez choisi d'ailleurs, Ségolène, de faire une réprotoxie. Revenir sur le passé de Clint Eastwood.
Ouais, c'est ça.
L'acteur revient devant et derrière la caméra avec le film La Mule en salle la semaine prochaine.
Et du haut de son mètre 93 et de ses 88 ans, il n'a rien perdu de sa superbe. Regard bleu perçant, visage anguleux et délicieusement creusé, à la fois sévère et séducteur. Bien vu. Bienvenue au cœur du monument Clint Eastwood. Tout commence en 1930. À sa naissance, Clint se fait déjà remarquer par toutes les infirmières de la maternité. À votre avis, pourquoi ?
Il a déjà la barbe.
Non,
le
parce
chapeau.
Qu'il est beau. Il est très beau.
Non, parce qu'il est énorme. C'est le plus gros nourrisson de la clinique, puisqu'à sa naissance, il pesait 5 kg de.
Oh non, wow.
On est ravis de l'apprendre.
Eric Bastien.
Mais dis donc, toi, tu te détends.
Clinton Junior, c'est son vrai patronyme, est élevé à la dure pendant sa petite enfance. Il grandit pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Son enfance se découpe en multiples déménagements. Ses parents en galère, ils prennent du boulot là où il y en a. Et lui aussi. Et il commence au cinéma dans des tout petits rôles. Il galère également au cinéma, à la télévision, sans vraiment être très convaincant en tant qu'acteur. Il tâtonne et hésite même avec la musique. En 1959, il sort un album. Are you satisfied, really satisfied? Joli grain de voix tout de même,
ah,
Clint Eastwood. Succès très limité pourtant pour ce premier album intitulé Cowboy Favorite. Tiens, il y a déjà du cowboy.
Ah oui, il n'y aurait pas comme un signe du destin là-dedans.
Ah ben oui Arnold, parce que la suite on la connaît, c'est le chapitre Far West. Puisque le premier rôle qui le catapulte Clint Eastwood au sommet, c'est celui de l'homme sans...
Sans nom.
Sans nom, évidemment.
C'est drôle, mais il est un peu susceptible. Votre accueil l'a un peu énervé. Je lui ai pourtant dit qu'ici c'était la coutume.
Une poignée de dollars sortie en 1964. Alors en France, on trouve ça nul. Par contre, en Italie, c'est un énorme succès qui permettra la suite. Comme on n'est plus à une poignée de dollars près, Eastwood enchaîne sa collaboration avec Sergio Leone pour quelques dollars de plus et acquiert sa notoriété mondiale. S'ensuit le point final de la trilogie, le bon, la brute et le...
Truand.
Clint Eastwood restera longtemps associé au genre western et devient un modèle d'émancipation pour l'Amérique, l'homme libre qui s'est fait tout seul à la conquête des grands espaces. Il réalise son premier film à 40 ans, ça s'appelle Un frisson dans la nuit, je l'ai revu, c'est sorti en 1971. Bon, ça a un peu vieilli, mais ce qui est drôle, c'est qu'il se donne le premier rôle, celui d'un animateur radio,
oui,
qui se fait harceler par l'une de ses auditrices.
Une fafale.
Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs,
bien sûr.
Qui sait. Depuis, Clint Eastwood a réalisé 40 longs métrages, le dernier en date, La Mule, qui sort la semaine prochaine, où il interprète un octogénaire endetté qui devient passeur de drogue pour un cartel mexicain. Il est donc une mule. Et ce qui est impressionnant chez Clint Eastwood, c'est que dans tous les rôles qu'il se donne, il n'hésite pas à assumer son physique vieilli par le poids des années. Il incarne souvent des personnages aux traits marqués, rongés par la douleur, des rôles finalement peu valorisants, mais d'une rare puissance. Clint Eastwood, il n'a jamais joué les vieux beaux, peut-être justement parce qu'il n'a de vieux que son âge et que la beauté n'est plus à prouver. Bradley Cooper, qui lui donne la réplique dans La Mule, expliquait que sur le tournage, il avait dû faire des efforts pour prendre l'allure de quelqu'un d'âgé, parce que, je cite, son corps est encore celui d'un vrai athlète. Clint Eastwood, 88 ans, une force de la nature, pourvu que ça dure.
Ah oui, là on est tout à fait d'accord, Ségolène Aluny, quel acteur, quel formidable acteur,
ouais.
Grand réalisateur également. Il avait un restaurant, il était propriétaire d'un restaurant, Clint Eastwood.
C'est vrai, ouais.
Ouais, sur la côte ouest des États-Unis, avec des steaks qui faisaient un mètre. Ah, je vous jure, j'y suis allé.
Un mètre ?
Je le digère encore, le steak. C'était il y a 15 ans de cela, comme le temps file vite.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Et c'est vrai que ça passe vite. Le Mag Loisir est déjà terminé. On vous remercie de nous avoir suivis durant cette demi-heure. Mais attention, on revient le week-end prochain. Avant cela, vous pouvez retrouver tous nos joyeux camarades tout au long de la semaine sur France Bleu. Vanessa Lambert, on se dit tout. C'est à 14h du lundi au vendredi.
Et on parlera demain des parents solo, avec vous qui élevez tout seul votre enfant.
Ah oui, les parents de Han Solo. Quelle bonne idée. C'est une très très bonne idée. Juste avant vous, Frédéric Le Ternier, Denis Farou, une heure en France.
Avec tout
toutes les initiatives que vous créez, que vous organisez en France. On est le relais dans Une heure en France entre 13h et 14h.
Ségolène Aluni, on vous retrouve sur France Bleu Paris.
Oui, les initiatives en Ile-de-France pour le coup.
Éric Bastien, du lundi au vendredi, c'est le top France Bleu en votre compagnie. C'est à 20h.
C'est vrai, on papote, on est au top.
J'ai rien d'autre à dire, mais c'est demain soir,
c'est
à 20h.
Hein, c'est bien. En tout cas, ça donne envie d'écouter, c'est vendeur. Vous avez vu ? Ouais, bravo à vous. Et Patrice Gascoin, vous, c'est la télé, on vous retrouve pour toutes vos chroniques tout au long de la semaine.
J'ai pas un truc qui rime comme ça, c'est dommage.
C'est pas grave, laissez,
mais c'est à 15h.
Laissez-lui la poésie. Et puis le samedi, plateau télé, évidemment. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 19h pour France Bleu Soir en compagnie d'Omar Sy pour un très très joli film.
Oh, oui. Trop bien.
Ça va, c'est un homme comme tout le monde, hein, excusez-moi, pour un très joli film intitulé Yao. On vous embrasse, portez-vous bien et au week-end prochain.